Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure. C'est le 12-13, le moment de votre émission préférée. L'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association Poterie Céramique du Gond. Nous avons dans notre studio Christiane Marcel, présidente, et Michel Loger, qui est une nouvelle recrue. D'ailleurs, ça va être intéressant d'avoir le point de vue d'une nouvelle recrue, justement. Bonjour mesdames, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien.
Très bien, alors on va passer cette émission à découvrir un peu votre association, puis on va parler un peu technique, il y a des choses à découvrir quand on ne connaît pas, comme moi. On va d'abord écouter le Flash Info, Marion Nigoul va nous raconter les malheurs qui nous attendent. On se retrouve tout de suite après pour la première partie de cette émission. Nous voilà de retour, alors on a écouté les infos, eh bien, si les Américains ne veulent pas notre vin et notre champagne, eh bien, on le boira nous-mêmes.
Exactement.
Voilà, ça leur apprendra. Alors ici la tradition c'est de demander un petit peu aux invités une petite trajectoire personnelle pour avoir un peu une idée de qui ils sont, ce qu'ils ont fait dans la vie et ce qui les a amenés à ce micro aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien vous prêter à l'exercice mesdames ?
Oui, on veut bien.
Alors qui c'est qui commence ? Michel, Christiane ?
Christiane.
Allez Christiane.
Notre présidente.
Bon. Allez.
Bon, voilà, je suis arrivée il y a 50 ans à Dax, suite à l'installation de mon mari sur la commune. Au départ, ben, j'ai eu une activité professionnelle dans l'enseignement. Et au moment de la retraite, je voulais avoir une occupation manuelle. Mmh. Et j'ai essayé donc de découvrir ce que l'on pouvait faire de ses mains avec de la terre. Mmh. Au départ, comme je n'étais pas confiante, j'ai commencé à la maison en faisant de la pâte à sel. Mmh. Voyant que les choses étaient proportionnées, eh bien, je me suis lancée dans la poterie.
D'accord.
Voilà. Et comme j'aime pas faire les choses à moitié, j'ai fait pas mal de stages, surtout pour maîtriser l'émail.
D'accord.
Voilà.
Alors, il y a plusieurs gens, personnes qui sont venues ici. Souvent, il y a des gens, on a l'impression qu'effectivement, ils ressentent une petite frustration dans toute leur carrière de ne pas avoir utilisé leurs mains pour faire des choses. Et on ressent des gens qu'ils expriment un certain besoin, à un moment donné, de le côté un peu artisanal, de mettre les choses les mains dans le cambouis, vraiment faire des choses. Donc, c'est une chose qui se manifeste des fois. Parce que vous étiez en enseignement, vous étiez quelle discipline vous enseignez ?
La comptabilité, la gestion, l'informatique.
Eh oui, on est bien loin de l'artisanat manuel. Voilà, mais bon, c'est bien, on peut toujours changer de choses dans la vie, c'est ça qui est bien. Alors, Michel.
Eh bien moi, je suis arrivée sur Dax, je ne suis pas d'ici. J'ai été parachutée parce que mon mari lui-même a été muté comme militaire à la base de Dax. Donc je suis arrivée ici en 92 et j'ai commencé à travailler en 94 comme vendeuse au Galeries Lafayette.
Ah, d'accord.
Bijouterie, horlogerie,
d'accord.
Ce qui m'a beaucoup plu. Mmh. Et puis bon, ben, après, j'ai bien sûr pris la retraite. Et ben moi, j'aime beaucoup jardiner, bon, faire quelque chose de mes mains déjà,
oui.
Avec ça. Et puis, ma maman était couturière, elle m'a appris des choses en couture. Donc, là aussi, des mains. Et alors, je suis arrivée à la poterie par une amie qui en faisait déjà un peu, qui me faisait voir ce qu'elle faisait. Ça m'a convaincue et je suis arrivée donc à l'association de la poterie du Gond.
D'accord.
Voilà. Alors, moi, je suis novice, hein, je commence tout doucettement.
Ça date de quand, le septembre, non ?
Oui, c'est ça, septembre.
Oui, d'accord.
Je suis contente parce que ça... Moi, je suis un peu quelqu'un qui est à énergie, beaucoup, peut-être des fois un petit peu trop, peut-être. Et là, ça m'apaise, tout comme la couture, d'ailleurs. C'est quelque chose, il faut prendre son temps, vous faites quelque chose de vos mains.
Oui.
Et puis bon, après, ben voilà, l'émaillage, c'est quelque chose d'un peu difficile pour moi. Mais bon, quand on a réussi quelque chose, on est très content. Et on se valorise un peu.
Oui. Alors moi, c'est bien, vous avez abordé déjà un des sujets dont je voulais parler aussi. C'est ce côté apaisant, le fait de faire des choses avec ses mains. Alors c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui utilisent des boules anti-stress. Bon, c'est pas très productif, mais bon, ça occupe les mains, mais ça fait
ça
pas...
Peut.
Voilà, mais c'est vrai que vous-même, vous pouvez dire, voilà, après une séance de travail, de la terre, etc., de l'argile, vous ressentez une forme d'apaisement due à ça.
Exactement, exactement. Je trouve que c'est enfin, oui, moi ça me fait de grand bien.
Oui, Christiane le, aussi.
Le travail demande de la minutie et de la concentration.
Oui, voilà.
Si on est étourdi, la terre ne l'est pas.
Oui.
Donc, on va rater l'objet.
Et oui.
Donc, ça demande effectivement une certaine concentration, ce qui fait que, eh bien, ça, finalement, ça nous détend. On ne pense pas à autre chose, on se concentre sur la pièce qu'on est en train de faire.
Exactement, oui. C'est sûr.
Alors, parlons de l'association, elle a presque 20 ans. Parlons-en de cette association, son historique.
On l'a créée en novembre 2007. Au départ, nous étions juste trois.
C'est vous qui êtes à l'origine de la création?
Oui. Je savais par expérience qu'il y avait un four que la ville de Dax avait mis à disposition des habitants du Gond. Et que ce four n'était plus utilisé.
Oui.
Donc, j'ai demandé à Marie Apathy, qui était à ce moment-là adjointe à Jacques Forté, si je pouvais récupérer ce four.
D'accord.
Et elle m'a demandé de créer une association. Et donc, nous étions trois au départ. L'année suivante, nous étions six. Et petit à petit, nous arrivons à 18-19 tous les ans.
Voilà, oui.
Voilà.
Alors, vous êtes donc dans le rez-de-chaussée d'une tour au Gond. Alors, est-ce que ce serait un moyen aussi de créer du lien, cette association, ce que vous faites, votre activité et l'ancrage dans lequel vous êtes?
Eh bien, pas tellement, finalement, parce que les gens du Gond ne viennent pas.
D'accord.
Nous avions mis en place au départ un atelier pour les enfants. Mais il a été déserté.
D'accord.
Ou alors, il venait de façon tellement irrégulière qu'il n'arrivait pas à produire quelque chose. Et donc, actuellement, nous n'avons personne du quartier, malheureusement.
C'est étonnant parce qu'ils ont la chance d'avoir une activité locale. Ils auraient pu s'emparer de ça. Alors, ce four que la mairie avait mis à disposition, c'était un four. Il servait à quoi? C'était un four à pain? Enfin, pour la cuisine, je
non,
sais pas.
Non, c'est un four à céramique.
Comment ça se fait qu'ils avaient donné ça
C'était, au départ, je crois que c'était une idée de Marie Apathy,
Oui, c'est ce que vous avez dit, oui.
Qui voulait occuper les chômeurs du quartier du Gond.
D'accord.
Et il y avait donc une personne qui était là pour s'occuper de faire fonctionner l'atelier.
D'accord.
Et cette personne, après, a trouvé un emploi à la bibliothèque municipale de Dax et le four n'a plus servi.
Et oui, voilà, c'est triste. Un four tout seul comme ça, qui est froid, qui n'attend plus que... Mais vous êtes venu pour le réchauffer, c'est bien.
Voilà.
D'accord. Bon, c'est intéressant d'avoir cette historique du four. Donc, c'est toujours le même four?
Non, parce que ce four avait malheureusement subi pas mal de dégâts lors des précédentes cuissons. D'ailleurs, la personne qui s'en occupait me l'a dit, elle n'avait pas assez de connaissances. Donc, le four était vraiment en piteux état.
Ah oui, d'accord.
Donc, nous avons passé les premières années avec des pannes toutes les 3 ou 4 cuissons.
Ah oui, j'imagine. Ah oui.
Et finalement, nous avions mis en place des expositions qui nous ont permis de financer l'achat d'un nouveau four.
D'accord.
Il faut savoir quand même qu'un four, ça coûte... la taille que nous avons, c'est entre 5 000 et 6 000 euros.
Ah oui. Alors, c'est quel type de technologie? Alors, celui que vous aviez avant, c'était...
C'était le même.
À gaz, électrique?
Non, électrique.
Oui, électrique.
Électrique, là où nous sommes situés, il vaut mieux quand même que ça soit électrique qu'à gaz ou à fuel.
Oui, voilà, d'accord. Donc, c'est électrique. Très bien. Alors, et donc, celui que vous avez, ça fait combien de temps que vous l'avez?
Maintenant, ça doit faire 10 ans qu'on l'a acheté.
D'accord.
10-12 ans.
Alors, vous avez un local, donc. Ce local, c'est vous qui le louez? Il est mis à disposition?
Il est mis à disposition. Alors, au départ, c'était un accord avec la ville et les HLM. Maintenant, je pense que ça ne dépend que d'Habitat.
D'accord.
Donc, ce n'est que les HLM.
D'accord.
Nous avons trois pièces. Une pièce qui nous sert à entreposer nos objets, enfin nos vêtements. Une pièce où on travaille la terre. Et la troisième pièce où on a notre grand four et un autre petit four qui nous a été fait cadeau. Voilà.
D'accord. Ah, vous avez aussi un autre petit four.
Oui, beaucoup plus petit.
D'accord.
Qui nous a été offert par la veuve d'un instituteur qui était au Gond. Et dont personne, à la mort de ce monsieur, personne de la famille n'a voulu le récupérer.
Oui, il faut en avoir l'utilité aussi.
Voilà. Ouais. Donc la dame nous l'a donné.
D'accord, bon, mais ça permet de faire des petites pièces à part.
Ça permet, surtout quand, pour les adhérentes qui à Noël veulent faire des cadeaux, qui sont toujours à la traîne, ça me permet de faire des cuissons plus rapides que le grand four qui est de 250 litres.
Ah oui, voilà, c'est ça. Alors ça fait combien en taille, la dimension du four, le grand four, vous parlez en litres, mais j'ai du mal à visualiser ça, c'est grand comme un four de cuisine,
non,
par exemple.
Non. En taille, donc il est un peu plus taille humaine, 1m80 à peu près. En largeur, 70-80.
D'accord, un peu comme un frigo américain, quoi. Je visualise. Très bien. Eh bien, c'est déjà le moment de faire notre première pause, mesdames. Je vous avais prévenu que ça allait vite. Vous allez voir. On va écouter un petit peu de musique. On se retrouve ensuite.
Parfait.
Voilà, de retour. Alors, évidemment, je ne pouvais pas louper ça. Right House Brothers, la scène botterie la plus célèbre du cinéma, quand même. Bon, voilà, j'imagine un petit peu. J'ai demandé, ils ne mettent pas de musique de fond pour faire la poterie. C'est dommage, ça aurait pu être sympa. Bon. Alors, nous voilà de retour. Nos invités. Alors on a discuté hors antenne. Donc, il n'y a pas de. Dans votre structure, le fonctionnement, il n'y a pas de, à proprement parler, de cours formel, mais forcément il y a une transmission par collaboration et travail ensemble. Alors comment est-ce que ça se passe tout ça?
Alors les personnes qui sont nouvelles, qui ne connaissent pas les techniques, on leur demande d'avoir des projets, d'avoir envie de faire quelque chose, un vase, un plat, un objet de décoration. Et au fur et à mesure que la personne va essayer de le réaliser, nous allons lui apprendre les gestes, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et petit à petit, en réalisant différents objets, elles vont acquérir les différentes techniques. Puisque nous n'avons pas de tour, donc nous fonctionnons donc par d'autres méthodes. On utilise ce que l'on appelle les colombins, c'est-à-dire des boudins de terre que l'on relie entre eux parce que l'on appelle de la barbotine. La barbotine étant de la terre délayée, tout simplement. C'est ce qui nous sert de colle. Après, l'autre technique, c'est donc la plaque. Nous faisons des plaques comme on étale de la pâte à pâtisserie.
Voilà, c'est ça,
En s'appuyant sur des réglettes.
Oui, qui permettent de régler la hauteur de la tranche que vous êtes en train de faire, en fait.
Exactement. Et en étalant la terre avec un rouleau à pâtisserie.
D'accord.
Voilà. Donc, nous utilisons beaucoup dans l'atelier ce que l'on appelle l'estampage. Nous utilisons donc des moules. Nous avons des moules en plâtre, par exemple, pour faire des boules. Mais nous avons aussi différents objets, des plats, différents supports qui nous servent on s'appuie dessus pour réaliser les objets.
Oui, bien sûr. Alors, vous disiez, voilà, c'est important. Vous travaillez donc sans tour, parce qu'effectivement, on a cette image-là du tour qui tourne. Bon, déjà, quand un objet tourne comme ça, il finit forcément par faire une forme arrondie. Donc vous, votre but, c'est pas forcément d'avoir un objet symétrique qui soit produit par une rotation, mais c'est vous modeler avec les mains et donner les formes avec vos mains.
Mais on arrive à avoir des objets parfaitement symétriques quand même.
Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez utilisé une petite table tournante ou pas? Ou est-ce que c'est forcément
On utilise des tournettes, des tournettes de table.
C'est plus pratique pour faire des assiettes, par exemple.
C'est pour voir les objets sous toutes les coutures.
D'accord.
Plutôt. Très utile, surtout quand on fait du modelage. Si on fait un personnage ou un animal, il faut le voir sous toutes ses formes. Donc on le fait tourner.
D'accord.
Mais ce sont que des tournettes de table.
Alors vous parliez de ces boudins, je sais plus comment ça s'appelle, les boudins de
colombins.
Voilà, colombins. Alors donc, si je comprends bien, j'essaie d'imaginer, vous les superposez et puis vous lissez après avec votre.
On lisse avec ce qu'on appelle des estèques. Ce sont, on pourrait dire, des objets comme une carte bancaire.
D'accord.
Peut nous servir parfaitement. Donc on efface les traces entre deux boudins en étirant la terre.
Ouais, je comprends. Donc vous faites fusionner entre les boudins pour
exactement.
Donner. Par exemple, si vous vouliez faire un vase, vous prendrez des boudins de plus en plus petits en allant vers le haut et vous lisseriez l'ensemble avec votre outil, c'est ça?
Exactement.
D'accord.
On efface les traces entre les deux boudins avec une estèque.
D'accord. Et vous utilisez aussi donc de l'eau ou de la terre délayée pour
la barbotine.
Voilà, barbotine qui sert de plâtre,
colle.
De ciment.
Voilà
pour combler les aspérités de tout ça. Voilà
exactement.
Ouais. Donc voilà, donc c'est effectivement pas le même travail qu'avec un tour. Hein, on n'utilise pas les mêmes outils, les mêmes techniques. C'est peut-être plus libre, non? Ça permet peut-être de faire plus de formes qu'on veut.
Personnellement, je préfère. Mmh. Je trouve qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Je trouve, pour moi, personnellement, que le tour limite. Bien sûr, on va beaucoup plus vite quand on sait bien tourner. On va pouvoir faire un objet rapidement. On peut après le déformer, ce que font certains.
Oui.
Mais personnellement, je ne suis pas attirée par le tour.
D'accord. Bon, voilà, c'est technique. Bon, après, ça fait des frais en moins. Hein.
Voilà.
Ça fait un tour ou des tours, parce que vous êtes plusieurs. Donc, quand vous travaillez à plusieurs ensemble, parce que je ne visualise pas la taille de la pièce dans laquelle vous êtes, mais combien vous pouvez être.
Peut-être jusqu'à 8.
Maximum 8 dans la pièce, parce qu'il faut quand même pouvoir bouger.
Oui, oui, voilà, d'accord. Donc effectivement là et puis on va déjà faire notre deuxième pause, on va écouter le flash info local, un peu de musique, et puis après on va poser un petit peu des questions techniques, hein, pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous utilisez, à quoi ça ressemble. Alors à quoi ça ressemble, vous verrez des photos, hein, chers auditeurs, hein, parce qu'à la radio c'est difficile de montrer un produit fini, mais vous en faites pas, on mettra ça dans le podcast. À tout de suite. Et voilà, c'est reparti. Alors, on discutait pas mal aux antennes, parce qu'il y a des parties techniques non négligeables, hein, vraiment, parce que là, on a parlé un petit peu vous avez décrit un petit peu les techniques de pour modeler, hein, donner les formes, etc. Mais la cuisson, là, c'est déjà, puis les cuissons même, je dirais. Hein.
Alors, il y a deux cuissons pour un objet. La première cuisson, on va faire ce que l'on appelle un biscuit. Cette première cuisson sert à faire sortir toute l'eau qu'il y a dans la terre. Alors, cette première cuisson se fait à 980 degrés. On monte par palier parce qu'à un certain stade, à 573 degrés exactement,
c'est précis.
Et il va y avoir ce que l'on appelle l'inversion du quartz. Et donc, les molécules de la terre vont se modifier.
Ouais, d'accord.
Et là, c'est là qu'en général, les pièces cassent.
D'accord, une cristallisation qui se produit à cette température-là.
Exactement.
Oui.
Exactement.
D'accord.
Donc, si la pièce n'a pas séché lentement, si elle est encore trop mouillée, si on est allé trop vite... C'est là que les pièces cassent.
Ah,
à 573 degrés,
d'accord, ouais.
C'est fatal.
Ah oui, là c'est quand même là c'est du précis. Ouais. Alors avant même de continuer à parler technique, mais alors de quoi on parle quand on parle de terre, voilà. Là, le matériau de base, c'est quoi? Les matériaux de base, il y en a plusieurs d'ailleurs.
Alors la terre, il y a ce que l'on appelle la faïence. C'est une terre courante qui va cuire au maximum à 1150 degrés. Ensuite, on va avoir du grès qui, lui, contient plus de silice et qui va donc accepter une température plus élevée.
D'accord.
Il va cuire jusqu'à 1250 degrés. Et enfin, la porcelaine doit contenir au moins 50% de kaolin.
D'accord.
Et elle cuit à 1350 degrés.
Ah oui, c'est plus élevé. Mais alors, le produit de départ, donc c'est, j'allais dire de l'argile, mais vous dites que argile, c'est le terme générique.
C'est
en
le
fait.
Terme général.
Voilà.
Oui.
Alors, vous utilisez quoi? Vous vous procurez les produits où?
Alors, nous utilisons essentiellement de la faïence. Donc, la faïence, actuellement, on se la procure à Bayonne.
D'accord.
Il y a une entreprise qui vient de s'installer. Qui donc nous livre la terre sous forme de pain de 12,5 kg.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et essentiellement de la faïence. Bon, on utilise un petit peu de grès, pas beaucoup.
Oui.
Et on utilise aussi de temps en temps du grès pour le ragoût. Parce que bien qu'on ne puisse pas faire des cuissons ragoût dans l'atelier, j'expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi. J'ai acheté un petit four qui se met dans le micro-ondes et qui nous permet de faire des petits bijoux, des petits objets de décoration.
Oui. Voilà. Bon, alors, raku, c'est une technique particulière. Hein. J'ai déjà vu, on voit des vidéos sur Internet. Là, c'est une technique où le feu et la terre se mêlent.
Alors, le raku, c'est à l'origine coréen, mais beaucoup développé au Japon. C'est surtout au moment de la décoration que la différence change. Mm-hmm. On va mettre l'émail, et une émail basse température, et on va sortir l'objet... encore tout chaud,
voilà.
C'est-à-dire qu'on ne le laisse pas refroidir dans le four. Mmh. Cet objet, on va le mettre dans de la sciure ou de la paille, quelque chose qui va s'enflammer.
Oui.
Et on couvre tout de suite de façon à étouffer le feu.
Oui.
Et on va, alors pour ceux qui s'y connaissent, on va passer d'une cuisson oxydation en réduction.
Oui.
Donc, le feu, pour être fourni, va prendre l'oxygène de l'émail, ce qui va donner des couleurs très variées.
Voilà, c'est ça qui va donner des variations sur les surfaces des objets. Voilà. Alors, justement, on parlait d'émail. Alors, donc, il y a deux cuissons. Alors, j'essaie de comprendre, parce que je ne suis pas un spécialiste. Donc, on fait d'abord cuire la structure elle-même, et ensuite, on y met dessus. Alors, voilà, j'ai dit tout à l'heure, moi, tout ça me fait penser un petit peu à la pâtisserie. Même quand on voit les gens travailler un peu comme si c'était une pâte, c'est tout un art. La pâtisserie, c'est assez technique. Et donc, l'émail serait le glaçage dans la pâtisserie.
Exactement. Alors, à la deuxième cuisson, donc, on peut utiliser l'émail. L'émail, pour faire un résumé rapide, ce serait du verre en poudre.
D'accord.
Voilà. Mmh. Donc, en fait, il y a un fondant et un colorant qu'on va déposer donc, sur la pièce qui est pré-cuite, qui a déjà biscuité, voilà, et la température là sera plus élevée.
Ah oui.
Si on fait une faïence, on va la faire cuire à 1130 degrés,
d'accord.
Et si on fait un grès, à 1250.
C'est quand même tout un art, c'est pas mal
mais
de choses à connaître.
On parle beaucoup de l'émail, mais il y a beaucoup plus de façon de
faire la finition et de décorer.
Voilà, on peut faire ce que l'on appelle les décors à l'engobe. C'est ce qui a été déjà au départ fait par nos ancêtres quand ils ont découvert la poterie. C'est-à-dire décorer l'objet à partir d'une autre terre colorée. Alors, les Grecs et les Romains faisaient du rouge et du noir essentiellement, qu'ils déposaient. Mais à l'heure actuelle, on utilise avec des oxydes toutes les couleurs pour faire de l'engobe.
D'accord.
L'engobe étant comme une barbotine de la terre délayée, à laquelle on a ajouté un colorant, oxyde colorant.
Oui, du coup, ça va venir colorer, changer l'aspect de la... D'accord. Très bien. Alors, moi, je vais demander un petit peu... Michel, donc ça fait pas longtemps.
Ah non, moi je suis toute récente.
La première fois, racontez-moi votre première fois, Michel, si je peux me permettre. Votre première terre, vous êtes trouvée dedans. Vous aviez une idée de ce que vous vouliez en faire?
Pas du tout.
Non.
Honnêtement, je suis arrivée en tout début septembre, au deuxième cours d'ailleurs. J'ai pas pu venir pour le premier. Le deuxième cours. Et bon, j'ai regardé ce que faisaient toutes ces dames, leurs objets étaient prêts à cuire. Donc j'ai regardé un peu. Bon, j'ai commencé à faire des petites, des petites soucoupes pour mettre les choses à l'apéritif, par exemple, comme ça. J'ai fait mes colombins. Et puis j'en ai fait après avec des petits moules. Voilà. Mais j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre. Vous savez, il y a tellement de choses, vous l'avez entendu par Christiane, c'est tellement bien précis.
Oui.
Mais moi, je m'amuse quand même beaucoup. Ça me fait plaisir de faire quelque chose avec mes mains et surtout de les réussir quand c'est possible.
Oui, voilà. Alors du coup, là, c'est l'apprentissage aussi par l'échec.
Complètement.
Des fois, c'est loupé, on est déçu.
J'ai commencé des choses que j'ai dit, allez, je bazarde tout, je reprends mon petit rouleau à pâtisserie j'étale ma pâte et je fais autre chose.
Oui.
Ah oui, bien sûr.
C'est sûr que là,
c'est logique d'ailleurs qu'on ait des échecs parce qu'autrement on n'avance pas.
De toute façon, alors il y en a qui disent, je ne sais plus qui disait ça, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages en fait.
C'est tout à fait ça. Regardez, vous parliez de ressemblance avec de la pâtisserie.
Oui.
Je suppose que les maîtres pâtissiers actuels, ils ont commencé comme apprentis, ils ont fait des bêtises.
Je suppose qu'il doit arriver des moments où vous êtes là, vous ouvrez le four et vous dites, ah mince.
Eh ben,
est-ce que c'est à ce moment-là d'ailleurs que se produit le désagrément de l'échec, en fait, c'est à la sortie du four.
Enfin, oui, peut-être. Moi, je dirais pas ça. Je dirais quand c'est en sortie de cuisson, la première cuisson. Mm-hmm. Là, vous voyez si c'est réussi quand même, si ça n'a pas pété, si ça n'a pas, voilà.
Oui.
Donc bon, déjà ça c'est bien. Mais après, quand il y a l'émaillage. Vous avez différentes couleurs qui sont installées sur le mur pour voir ce que ça peut donner. Donc, vous prenez une couleur, vous faites votre émaillage.
Le résultat n'est pas forcément le même résultat.
Ah, ben tout à fait. Oui, vous avez des surprises des fois.
Et le gros. Excuse-moi.
Non, je t'en prie.
Et le gros problème, c'est que la poudre qu'on va utiliser est parfois blanche.
Oui.
Et vous allez avoir un rouge vif.
Ah, voilà, oui, exactement. Parce que là, j'ai une belle tortue qui est très rouge.
Oui, tout à fait.
Ah oui, alors c'est une question d'oxyde métallique qui se mêle.
Pendant la cuisson, donc va se créer une réaction chimique. Mmh. Et donc on va avoir un silicate qui va se former.
Oui, qui a une couleur différente.
Et le silicate aura une couleur différente.
Et oui, avec l'oxygène et tout ça.
Voilà.
Oui, oui, alors du coup, vous avez dû développer quelques petites compétences en chimie, même si ce n'était pas forcément dans votre besace au départ, tout ça. Parce que ça aide quand même de comprendre les phénomènes.
Ben, personnellement, bon, j'ai une formation scientifique, donc ça ne m'a pas, j'ai pas été bloquée, mais je comprends que certaines aient beaucoup de mal aussi à comprendre que en mélangeant deux couleurs, on va pas avoir la couleur qu'on attend. Voilà.
C'est ça, oui, parce que voilà, c'est ça, c'est pas de la peinture, mais voilà,
pas du tout.
La phase de cuisson va transformer.
Pas du tout, c'est de la chimie,
voilà.
Mais on a des bonnes surprises quand même, hein.
Oui.
Même si on part justement d'un bleu ou d'un vert. Et il y a des choses qui se sont transformées. Vous arrivez à, pas un violet, mais pas loin, quoi. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc, c'est vraiment surprenant. Façon, c'est surprenant,
dans
des
le
fois.
Processus de création, il y a l'accident créatif, la sérendipité.
Ouais.
Et les artistes ou les musiciens, n'importe quel type d'artiste, des fois, il fait quelque chose et les résultats qu'il a, ce n'est pas le résultat escompté, mais c'est quand même très bien.
Mais c'est tellement que très bien. Voilà.
Et ça marche aussi pour les découvertes scientifiques, les rayons X, etc.
Ouais.
L'accident créateur, voilà, c'est comme ça.
Mais je pense qu'au départ, d'ailleurs, la poterie, l'art du feu, a été découvert, alors ça date
il y a très longtemps,
10 000
oui.
ans avant Jésus-Christ,
oui.
Ils ont dû découvrir ça par...
comme le verre, comme... Enfin,
exactement.
C'est vrai que des fois, c'est un peu passionnant, même torturant, d'essayer d'imaginer comment les premiers ont fait les choses. Parce que nous, on arrive avec toujours un acquis, des connaissances, quelqu'un au-dessus qui connaissait avant. Mais les tout premiers, on essaie d'imaginer tout... qu'avant d'avoir une démarche intellectuelle de création, ça a été du hasard, dire « Ah ben ça alors, si je fais ça avec ça, ça donne ça ». Voilà, donc là, ce sont nos ancêtres qui ont essuyé les plâtres, nous, on arrive après.
Voilà.
Eh bien, mesdames, on va arriver déjà à la dernière pause de notre émission, encore un petit peu de musique et on passera à la conclusion. À tout de suite. Et nous voilà de retour pour cette dernière partie de l'émission. Alors, tout ça, mesdames, c'est bien beau, on en parle et tout, mais où et quand est-ce que des gens vont pouvoir voir tous les objets que vous avez réalisés? Parce qu'on en a parlé maintenant, ça donne un petit peu envie de les voir quand même. Comme on est à la radio, j'ai du mal à les montrer. Donc, quand est-ce que ce sera possible de voir ce que vous avez fait?
Malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'avons aucun lieu d'exposition. Avant, on exposait tous les ans, un peu avant Noël, dans la galerie municipale de la bibliothèque. Bon, les travaux qui ont été faits ne nous permettent plus d'exposer. Donc, nous sommes à la recherche d'une salle qui pourrait être mise à disposition en courant décembre. Parce que nous proposons en général des petits décors pour la table de Noël, des petits objets pour faire des cadeaux. Voilà. Donc, si une commune, Dax ou Saint-Paul ou limitrophes nous propose une salle, nous serons prêtes pour Noël 2026.
Ah voilà, je crois que là on a un petit appel qui a été fait. Oui, c'est vrai que. Alors, est-ce que vous avez démarché éventuellement des galeristes ou quelque chose du même genre qui pourraient être intéressés peut-être, non?
Non, on ne veut pas faire commerce.
Oui, oui, oui.
Simplement, nous sommes une association à but non lucratif. Donc, les objets que nous vendons, c'est uniquement pour pouvoir nous racheter du matériel. C'est pas donc dans un but lucratif.
D'accord. Et alors, combien d'adhérentes vous êtes? Est-ce que vous avez encore de la place ou pas? Parce que je ne voudrais pas que vous soyez submergés suite à cette émission, tout de même.
Alors, nous sommes actuellement 18 adhérentes, plus une 19e qui va et qui vient voir sa famille dans les Landes et qui, à ce moment-là, vient à l'atelier.
D'accord.
Le lundi, il n'y a absolument plus de place. Elles sont beaucoup trop nombreuses. Voilà. Je me demande même comment elles arrivent à travailler.
Voilà, d'accord.
Le mercredi, il y a encore 2 ou 3 places. Mmh. Et exactement pareil, le jeudi, 2 ou 3 places.
Mmh.
Parce que, bon, il faut pouvoir s'étaler.
Et oui, on ne peut pas pousser les murs, hein, non, j'ai bien compris. Oui, bon. Après, bon, c'est toujours intéressant de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives, de nouvelles manières de voir les choses. Et peut-être quelqu'un qui aura un lieu aussi. Parce que...
Alors,
on parlait du raku. Il faut quand même... il faut avoir un terrain, on va dire. Ça se fait dehors.
Le raku, il faut être à l'extérieur, de préférence.
Ça se met dans la terre, je crois, non?
Non, pas dans la terre.
Non.
Mais le problème, c'est que quand on sort l'objet et qu'on l'enfume, mmh. Ben déjà, il y a toute la fumée.
Oui.
Donc, et puis, bon, il y a la mise à feu du foin ou de la sciure qu'on ne peut pas se permettre dans un local.
Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, il y a ces contraintes-là. Ouais.
Donc, le four raku doit être à l'extérieur, en principe.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez une activité numérique? Genre une page internet où vous pouvez communiquer sur ce que vous faites et éventuellement montrer des images de vos poteries. Pas encore.
Pas encore.
Eh bien voilà, il vous faut une adhérente qui va se mettre à la poterie et en plus qui va s'occuper de la communication sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'il vous faut.
Exactement.
Voilà. Hein, l'appel est donné.
Il faut lancer l'appel. Voilà.
Voilà. Alors je mettrai tout de même au moins votre email avec le podcast que les gens puissent éventuellement vous contacter. Et peut-être venir faire un tour chez vous. Et
on peut venir déjà nous rendre visite pour voir ce qui s'y passe.
On a le droit d'amener des gâteaux.
Alors, en principe, on n'a pas le droit de manger dans un atelier à cause des produits.
Oui.
Bon,
devant.
Voilà.
Sur une chaise devant, avec le thé quand même. Ce serait dommage de ne pas pouvoir. D'ailleurs, le thé, peut-être que vous avez fait des objets. Les objets que vous faites ne sont pas forcément décoratifs. Ils ont aussi une fonction utile.
On peut faire des théières.
Ah ben voilà.
On peut faire des tasses.
Et voilà. Donc là, quoi de mieux que de les utiliser vraiment.
Et il y en a qui en font. Oui, voilà.
Très bien. Eh bien, mesdames, on arrive à la fin de cette émission. Mais merci beaucoup d'être venues nous faire partager votre passion. Voilà.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Merci aussi.
Avec grand plaisir, parce que c'était intéressant. Puis voilà, c'est toujours aussi de découvrir, parce qu'on a toujours des idées préconçues sur les choses qu'on ne connaît pas. Puis on se rend compte, ouais, il y a quand même une partie technique et artistique et artisanale. Voilà.
Tout le monde croit que la poterie implique un tour,
oui,
mais non.
Voilà, non, exactement. Donc on peut faire la poterie sans tour, très bien. Mais ça, c'est à cause de ce fameux film dont j'ai passé un extrait tout à l'heure. Hein. C'est pour ça, hein. C'est pas ma faute, hein, je vous assure. Merci beaucoup, mesdames. Au revoir.
Merci beaucoup, monsieur. Au revoir.